Bonsoir à tous, c'est Roxane avec vous pour le magazine Énergie Positive tous les vendredis soirs dès 23h. Ici et maintenant 95.2 FM en Ile-de-France, ici et maintenant.com partout ailleurs, ainsi que sur le canal 9A de la radio numérique terrestre. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce magazine Énergie Positive dans lequel je reçois ce soir Philippe Guimand. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Vous venez nous parler de votre livre, votre second ouvrage intitulé « La physique de la conscience » puisque vous êtes physicien vous-même.
Oui.
Vous avez un parcours académique puisque vous êtes diplômé de l'École centrale Paris. Vous possédez un doctorat en physique du rayonnement et une habilitation à diriger des recherches. Vous êtes également auteur de nombreux brevets et publications dans le domaine du chaos, des réseaux de neurones et de l'intelligence artificielle. Et vous êtes fondateur également de deux entreprises de technologies innovantes licenciées par le CNRS. Mais de ce parcours académique, vous sortez un peu des sentiers battus, puisque vous êtes, on va le voir durant cette émission, un peu pionnier dans des théories atypiques, comme la théorie de la double causalité.
Pas si atypique que ça, mais oui.
D'accord, bon, vous avez, non, du moins peut-être moins reconnu. Par la communauté scientifique. Donc, vous nous présentez ce livre qui s'intitule « La physique de la conscience », qui paraît aux éditions Guy Trédaniel, et dans lequel vous répondez à plusieurs questions, notamment savoir si nous avons une vie après la mort. Vous démontrez la rationalité de la théorie de la synchronicité.
Oui.
Et vous remettez en question certains postulats académiques.
La science elle-même remet en question ces postulats.
Votre livre commence tout de suite avec des notions très communément admises dans les mœurs collectives, notamment cette notion de la réalité. Et vous dites que la réalité telle qu'on la perçoit n'existe pas.
Oui, je le dis, mais aujourd'hui, je ne vais pas dire tout le monde le dit chez les physiciens, mais on n'en est pas loin, c'est reconnu dans le courant mainstream de la science, qu'il importe de remettre en question totalement notre vision de la réalité. La réalité n'existe pas telle qu'on la perçoit, dans la mesure où il s'agit d'espace, de temps et de matière, et que la matière telle qu'on la découvre en physique ne correspond pas du tout à l'intuition que nous avons de la matière. L'espace tel qu'on le découvre en physique ne correspond pas du tout non plus à l'intuition que nous avons de l'espace, et pour le temps, c'est pareil. Donc, si vous voulez, je vais développer chacun de ces points.
Alors, juste avant de développer, c'est vrai qu'on peut s'interroger sur le titre de votre livre. Vous le dites vous-même, les deux termes sont objectivement antinomiques, le terme physique et le terme conscience. Et vous les juxtaposez parce que pour vous, ça a profondément un sens.
Oui. En fait, aujourd'hui, la physique elle-même a un problème avec le concept d'objectivité depuis un siècle, depuis l'avènement de la mécanique quantique, où on s'est aperçu que on ne pouvait pas dissocier la mesure de l'observateur à travers son instrumentation. C'est-à-dire que tout se passait comme si l'observateur avait un rôle à jouer dans la réalisation de la mesure, et que même le résultat d'une mesure en physique n'existe pas avant d'avoir été observé. Donc ça, déjà, c'est un premier problème. Et il y a eu tout un tas d'autres observations en physique relatives à ce qu'est l'espace, à ce qu'est la matière et ce qu'est le temps, qui nous amène également dans la foulée de cette première remise en question à considérer que on ne peut pas dissocier l'observateur, l'humain et sa conscience de la réalité. Et
c'est-à-dire que la réalité n'existe que parce qu'elle est perçue ?
Bien, oui, en fait, ça serait ça. Enfin, je ne veux pas aboutir trop rapidement à cette conclusion-là, parce qu'il faudrait faire un plus long développement. Mais oui, on aboutirait à cette conclusion. Mais d'emblée, dans mon livre, que je rappelle que je l'ai coécrit avec le journaliste Jocelyn Morisson, qui m'a aidé à l'écrire, dans la mesure où ce livre est très ambitieux et que les développements scientifiques qui sont surtout au début du livre, il importait qu'ils soient bien vulgarisés, et Jocelyn m'a apporté une aide importante à l'écriture de cet ouvrage. Et donc j'en reviens donc sur le démarrage de cet ouvrage, où je propose un renversement de perspective qui effectivement consiste à dire que aujourd'hui, si on veut conserver l'objectivité en physique, on est obligé d'introduire la conscience. En fait, on ne le fait pas encore, et c'est parce qu'on ne le fait pas encore que la physique reste bloquée sur des dogmes qu'elle a pourtant remis en question depuis quelques décennies. C'est parce que les physiciens n'arrivent pas à procéder à ce renversement de perspective que on ne change pas ses dogmes, mais c'est aussi parce que la physique, elle est fondée sur les équations, et que pour arriver à intégrer le renversement de perspective qui consiste à introduire la conscience en physique, il faut aller au-delà de la physique des équations. Et comme c'est très difficile, on n'y va pas, et donc on se retrouve avec une physique en crise qui sait que les fondements, entre guillemets, matérialistes de la physique des équations sont faux, et qui, malgré tout, bon, on est bien obligé de continuer à fonctionner avec. Et donc, si on veut sortir de là, il faut, on va dire, raccrocher les wagons de la physique à la locomotive de la philosophie. Ce n'est qu'en raccrochant tous les wagons, donc toutes les cloisons, hein, toutes les disciplines, tous les secteurs de la physique, au wagon, à la locomotive de la philosophie, qu'à ce moment-là, on pourra intégrer ce renversement de perspective, aller au-delà de la physique des équations, et enfin tenir compte des conséquences des découvertes de la physique pendant, on va dire, les 30 ou 40 dernières années, et qui nous ont conduit à remettre en question le matérialisme, la causalité, ou enfin disons la causalité stricte, ce qu'on appelle le hasard.
Le déterminisme, la causalité stricte. Ah, c'est voilà. Différent.
Il y a quatre. La physique des équations, je dis bien physique des équations, il s'agit de la physique actuelle. Par opposition à la physique qui va au-delà, dans la mesure où elle remet en question des dogmes sur lesquels sont pourtant fondées les équations. Donc, si vous voulez, je voulais préciser, on en reparlera après.
Oui, c'est vrai que vous n'avez pas... Enfin, vous avez, comme je l'ai dit en début d'émission, un parcours classique. Dans les années 80, oui. Vous fonctionnez de cette manière-là, avec oui. Les équations. Qu'est-ce qui vous a fait prendre conscience, justement, de la non-authenticité de oui. ce fonctionnement? Parce que la conscience, c'est aussi, vous dites, qu'il peut y avoir une certaine forme de recul à juxtaposer ces deux termes que sont la physique et la conscience, de par leur sonorité. Mais si on oui. décompose le mot conscience, on se retrouve avec simplement un mot qui veut dire avec science.
Oui. Tout à fait. Qu'est-ce qui m'a amené ? Alors, j'ai découvert, c'est un grand mot, je me suis rendu compte que la physique, elle avait un énorme problème avec l'information, En fait, j'ai commencé ma carrière au début des années 80, au moment de l'explosion de la micro-informatique. Et je suis assez rapidement devenu un expert en traitement de l'information, ce qui ensuite m'a amené à faire de l'intelligence artificielle, etc. Et c'est dans cette progression de mes connaissances, de mes compétences, que j'ai découvert que pour réellement développer des systèmes intelligents, à un moment donné, on ne pouvait plus utiliser l'équation et il fallait passer à ce qu'on appelle les algorithmes, c'est-à-dire quelque chose qui part directement de la géométrie, ou enfin disons que. Alors, on va définir ce que c'est qu'un algorithme, c'est important. Un algorithme, c'est un ensemble d'opérations de calcul qui permettent de mettre en œuvre soit une équation, soit directement un concept issu de la géométrie de l'information qu'on essaye de traiter. Voilà. C'est-à-dire, un algorithme, c'est, on va dire, le processus opératoire de calcul, hein, qu'on va schématiser en différents éléments et qui vont permettre à un ordinateur de suivre une séquence d'instructions pour réaliser un programme intelligent. Voilà.
Donc l'algorithme, hein, si je ne me trompe pas, hein, je dis peut-être une bêtise, mais c'est ce qui permet de lier les éléments entre eux, les événements.
C'est ce qui permet de générer des séquences d'instructions. Hein, et on n'hésite pas, beaucoup de physiciens, de scientifiques n'hésitent même pas à dire que même notre cerveau lui-même, c'est un petit peu avec les réseaux de neurones qu'il convient, on a en quelque sorte des séquences de calcul qui opèrent à l'intérieur du cerveau et qui modifient perpétuellement, séquentiellement nos états mentaux. Voilà, bon, ça, cette comparaison entre le cerveau et ce que pourrait faire un ordinateur très intelligent, c'est quelque chose qui aujourd'hui est largement battu en brèche, mais c'est encore sérieusement en vogue, et c'est encore aujourd'hui, on va dire, dans la conscience collective des informaticiens, des physiciens qui font du traitement de l'information, il y a toujours ce rêve d'arriver à simuler l'intelligence humaine, voire même à égaler l'intelligence humaine par le biais de programmes, hein, comme dans les robots intelligents. Voilà. Donc, un algorithme, c'est quelque chose qui va ainsi donc réaliser toutes les opérations mentales qui vont permettre de traiter de l'information de la même manière qu'un cerveau traite lui-même de l'information de la réalité qui nous entoure.
Donc pour
et
vous...
donc, voilà, ça c'est. Bon, donc je suis allé un petit peu loin dans la définition des algorithmes. Et ce qui. Voilà, la chose déterminante qui, dans mon parcours, m'a éveillé l'esprit au fait que. Au problème que la physique avait à remettre en question ses dogmes, et je vais y venir, c'est le fait qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que pour réaliser des programmes intelligents, des cerveaux, parce que je suis l'auteur de plusieurs systèmes de vision artificielle qui permettent de fabriquer des cerveaux artificiels, des cerveaux électroniques qu'on greffe à des caméras de manière à ce que ces caméras soient capables de reconnaître des objets complexes du décor, même si ces objets sont compliqués, sont en mouvement, etc., etc. Donc c'est là-dessus d'ailleurs que j'ai eu que j'ai été primé. Et donc c'est cette expérience-là, en fait, au début de cette expérience, j'essayais de faire ce qu'on appelle du traitement d'image en utilisant des équations transformées de Fourier, transformées ondelettes, etc. Enfin bon, vos auditeurs ne vont pas trop comprendre, je ne vais pas parler de ça. Mais je me suis rendu compte que lorsqu'on partait du formalisme pour réaliser des programmes intelligents, finalement, on arrivait à des résultats qui étaient très peu, vraiment insatisfaisants. Et j'ai appris à travailler directement avec la géométrie spatio-temporelle de l'information que je voulais traiter, en l'occurrence l'information que récupère une caméra. Et Et j'ai appris à me passer donc des équations et à travailler directement, à concevoir directement des algorithmes à partir de la géométrie spatio-temporelle. Et à ce moment-là, j'ai réussi à développer des systèmes très intelligents qui sont capables de simuler certaines opérations de reconnaissance humaine dans le domaine de la reconnaissance de forme, dans d'autres domaines. Et c'est ça qui m'a ouvert l'esprit à la compréhension du fait que la physique d'aujourd'hui n'arrive pas à dépasser ses dogmes parce qu'elle est trop enfermée par la rigidité imposée par le cadre formaliste imposé par les équations. Alors, je peux détailler, si vous voulez, cette histoire. J'ennuie peut-être un peu vos auditeurs avec de la physique, avec des choses un petit peu, mais ça c'est, je veux dire, on va passer à un contenu progressivement beaucoup plus spirituel, et il est important que mon discours soit ancré dans la rationalité, et c'est pour ça que je tiens à rappeler.
D'ailleurs, tout ce système d'information, qui est un concept clé en physique, a amené certains scientifiques à dire que l'univers était calculable.
Oui.
Et que, justement, nous serions tous éventuellement des machines. Enfin, certains le prétendent. Oui. Qu'est-ce qui, pour vous, fait la différence entre, justement, qu'est-ce qui vous fait dire que l'être humain n'est pas une machine ?
Alors, voilà. Donc l'expérience, mon expérience en intelligence artificielle et d'une manière plus générale dans tout ce qui est calcul numérique et développement informatique en tout genre, m'a amené à prendre conscience du fait que la physique avait un énorme problème avec l'information. Donc si on oublie que de résoudre ce problème que la physique a avec ce qu'on appelle l'information physique, à ce moment-là, on rentre dans la croyance que effectivement l'univers fonctionne comme un vaste système informatique, système d'information, ordinateur quantique, etc. Et on se trompe parce qu'on ne peut pas entrer dans cette voie qui, dans un sens, est juste dans la mesure où effectivement tout n'est qu'information finalement. Mais on ne peut pas entrer vraiment dans des concepts novateurs relatifs à l'information sans avoir compris qu'il nous fallait tout d'abord remettre en question la réalité telle qu'on la perçoit. Donc là, je vais citer donc les problèmes de la physique relatifs à l'information. Il y en a quatre dont je parle souvent. Le premier problème, c'est l'idée que la conscience serait le produit du cerveau. Hein? Donc ça, c'est l'hypothèse matérialiste, qui est totalement fausse, puisque aujourd'hui, on sait que ce qu'on appelle le vide, qui est par définition immatériel, est plein d'informations. Et non seulement il est plein d'informations, mais le vide contient 10 puissance 120 fois plus d'informations que notre réalité matérielle. D'accord. Donc c'est immensément vaste.
Ça, c'est la physique classique qui l'a démontré, ou la physique quantique ?
C'est la physique quantique. C'est une conséquence de ce qu'on appelle le principe d'indétermination d'Heisenberg. Mais bon, on ne va pas rentrer dans cette affaire. Et ça veut dire qu'en réalité, on a à l'échelle intime de l'espace, c'est-à-dire dans l'infiniment petit, plus on zoome, en dessous l'échelle des particules élémentaires, on continue de zoomer, et à une échelle de 10 puissance moins, on va dire entre 10 puissance moins 17 et 10 puissance moins 35 mètres, on commence à voir l'espace fluctuer. On commence à voir, c'est-à-dire le contenu du vide. C'est-à-dire ce qu'on croit être vide, finalement, on s'aperçoit que c'est de l'espace qui vibre, ou si vous préférez, des informations qui commencent à apparaître dans l'infiniment petit et qui jouent un rôle sur notre réalité, qui interagissent avec notre réalité. Donc ça, premier problème de la physique moderne, aujourd'hui, on ne sait pas intégrer véritablement dans les équations de la physique le fait que le vide est plein d'informations. On sait que le vide est plein d'informations, qu'elles interagissent avec notre réalité, que cette réalité, on pourrait même dire que dans un certain sens, elle émerge du vide, mais on ne sait pas intégrer correctement donc l'interaction du vide entre notre réalité.
Et quelle est la source de ces informations ?
On ne sait pas. Alors justement, en l'absence de connaissances sur ce que sont ces informations, les physiciens considèrent que c'est ce qu'on appelle du hasard. C'est-à-dire, c'est-à-dire que les physiciens utilisent une démarche probabiliste pour essayer de quantifier ces informations. Ces informations jouent un rôle dans notre réalité parce que, en quelque sorte, notre réalité est assise sur un pullulement de quantas probabilistes, c'est-à-dire un pullulement d'informations probabilistes qui interviennent dans l'infiniment petit, mais on ne sait pas décrire ces informations-là autrement qu'en faisant appel au hasard. Et c'est tout le problème de la physique. Et pourquoi on fait appel au hasard ? Parce que le hasard permet de faire des calculs de probabilité, donc ramener des équations là où on ne sait pas mettre autre chose. Voilà, ça c'est le premier problème. Donc premier blocage.
Et vous n'allez pas dans ce sens-là, puisque notamment avec ce concept de la théorie de la synchronicité.
Oui, mais là vous allez un peu vite. On va faire le point sur les quatre problèmes. Il n'y en a pas qu'un. On a un problème avec la causalité, qui est que le cadre formel de la physique, on va dire le modèle standard, suppose comme étant à sens unique, c'est-à-dire on n'admet pas la rétrocausalité, mais on sait en même temps que ce modèle standard est incomplet. Et donc la causalité, c'est quoi ? La causalité stricte, c'est-à-dire le principe d'irréversibilité, c'est l'idée que les effets suivent toujours les causes. Alors que aujourd'hui, on a découvert en physique, on a même la preuve, que c'est faux parce qu'on découvre que la causalité est indépendante du temps. C'est-à-dire ce qu'on appelle la causalité, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec le temps qui passe. Les physiciens n'ont d'ailleurs aucune explication à donner au fait qu'il existe un présent qui nous donne la sensation du temps qui passe.
Mais concernant justement cette notion, vous dites le temps n'existe pas, et Einstein le disait aussi. Comment vous l'expliquez en science ?
Alors justement, Einstein disait, et aujourd'hui c'est reconnu, et cette fois-ci c'est même prouvé par l'expérience, par des mesures, que tout est simultané, c'est-à-dire le passé, le présent et le futur sont simultanés. D'accord ? Il n'y a pas de. Et c'est la raison pour laquelle on entend souvent dire le temps n'existe pas. C'est parce que on ne sait pas ce que vient faire notre conscience dans le présent. La physique peut travailler sans cette notion du présent, et la physique n'a aucune interprétation à donner à cette histoire du temps qui passe. Voilà. Donc ça. Ça génère un autre problème avec l'information en physique. Deuxième problème avec l'information, c'est que la physique des équations continue de faire comme si le temps passait, continue de faire comme si le futur était créé à partir du passé dans le présent. C'est-à-dire que la physique des équations continue de nous faire croire que notre présent joue un rôle, dans le sens où le passé serait constitué de ce qui est déjà créé et le futur serait constitué de ce qui n'est pas encore créé. Or ça, on sait que c'est faux, mais on continue d'utiliser en très grande majorité une physique qui est fondée sur la variable t des équations, qui nous donne l'impression que le futur se construit à partir du passé via le présent. Donc ça, deuxième bug de la physique, deuxième contradiction. Troisième contradiction, c'est le hasard qu'on introduit dans les équations de la physique statistique, dans les équations de la physique quantique, tout en essayant de conserver une physique déterministe, c'est-à-dire qui va déterminer parfaitement par le calcul tout ce qui va nous arriver. Alors pour résoudre ce problème-là, les physiciens, on va dire le courant mainstream, parce que évidemment ils ne sont pas tous d'accord, considèrent que nous vivons tous dans des univers séparés, des univers parallèles. C'est-à-dire qu'il existerait une myriade d'univers parallèles dans lesquels nous aurions d'autres, nous-mêmes, qui aurions toutes nos vies alternatives.
Ce qui expliquerait la multidimensionnalité.
C'est pas, alors, il y a plusieurs formes de multidimensionnalité. On viendra tout à l'heure à cette histoire. La multidimensionnalité dont vous faites référence, je pense plutôt qu'il s'agit de plans de réalité différents.
C'est-à-dire des expériences simultanées
sans nier l'existence de réalités parallèles, je nie l'existence de myriades d'univers dans lesquels, séparés par des distances ultra-astronomiques, au-delà de l'horizon cosmologique, dans lesquels toutes les autres alternatives que je pourrais avoir dans ma vie, qui sont permises par le hasard quantique, auraient lieu. C'est-à-dire que nous serions enfermés, chacun d'entre nous serait enfermé, d'après cette conception déterministe, dans une variante et une seule de notre vie qui est déjà parfaitement déterminée d'avance. Et nous ne pouvons rien changer à cette variante, à moins de sauter, de faire un saut d'une distance qui est absolument impensable. Enfin bon, bon, moi je considère que cette théorie des univers parallèles, qui est issue de la théorie des cordes, cette fameuse théorie des cordes qui aujourd'hui tient encore le haut du panier, bien qu'elle soit contestée, cette théorie des univers parallèles est issue de l'immense la quantité incroyable de degrés de liberté, je crois que c'est 10 puissance 500 univers possibles que nous propose la théorie des cordes. Donc dans ces univers, il y aurait toutes les variantes de nos vies. Bon, moi je suis totalement opposé à cette idée-là. C'est vraiment une idée qui vient de la tendance des physiciens, on va dire matérialistes, à vouloir préserver le déterminisme scientifique en fabriquant tous ces univers impensables. Bon, et c'est à nouveau, encore pour la troisième fois, je le répète, c'est toujours le même problème, c'est un problème par rapport à l'information, et il est impossible que ces théories soient justes, tout simplement parce que cette information, ce hasard qui est introduit dans l'espace-temps, C'est un hasard qui réalise une coordination non locale. C'est-à-dire que les informations qui sont introduites au niveau quantique, hein, dans l'infiniment petit, dans l'espace-temps, sont introduites non pas localement, mais indépendamment de l'espace et du temps. C'est-à-dire que les informations qui sont introduites